Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est une heure d'entretien chaque soir avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, avec l'auteur Gwenaëlle Aubry.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper,
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans cette moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Nous portons tous en nous une maison effondrée, tu ne crois pas ? Dis-moi ce qui te manque, cave ou grenier ? Quelle paroi vacille en toi ? Quel plancher ? Où se planquent tes termites et tes araignées ? Tes lézardes et ton salpêtre ? Où sont tes débarras, tes issues de secours et tes portes condamnées ? Ta chambre obscure, tu la connais ? Et ta pièce vide ? C'est Irina qui nous parle, l'une des quatre femmes que votre roman accueille en son sein, Gwenaëlle Aubry, dans sa folie Elisa, puisque c'est le titre. Si la folie architecturale tient son nom d'un abri de feuillage où chacun peut vivre un moment en toute discrétion, vous baptisez un asile de feuilles, de papier cette fois, où elles ne font que passer, déposer dedans leur histoire et se tourner plus ou moins douloureusement vers le dehors. Bonsoir et bienvenue, Gwenaëlle Aubry. La folie Elisa, c'est un roman qui paraît donc en cette rentrée littéraire aux éditions Mercure de France. C'est un roman qui commence avec des femmes qui toquent à la porte, presque le son de femmes qui toquent à la porte, et quelqu'un qui, d'un seul coup, n'avait plus la force de ne pas les laisser entrer. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du métier de romancière dont vous nous parlez d'emblée, à savoir, est-ce que ces femmes ont aussi toqué à la porte de l'écrivain que vous êtes ?
Oui, elles ont fait effraction. C'est comme ça que ça commence, en effet, par cette espèce d'irruption. Et d'autant plus que l'une des choses que le livre interroge à travers ces quatre-là, c'est une espèce de rapport déréglé entre le dedans et le dehors, un rapport déréglé entre l'intérieur et l'extérieur, qui est le leur à toutes quatre, qui fait d'elles à la fois des petites folles, comme Duras le disait de l'Holbein. On a un texte de Duras sur l'Holbein, très beau texte dans La vie matérielle, où elle parle d'elle précisément, campant à la porte de ses livres, campant devant ses maisons. Elle parle de cette espèce
Elle
parle de l'Holbein en ces termes, avec beaucoup de tendresse et en même temps une sorte de d'harassement, comme ça. Et donc voilà, ce sont des petites folles qui effectivement sont complètement, sont maximalement ouvertes au dehors, et c'est ça qui fait d'elles aussi des artistes et des amantes. Et à travers elles, oui, il s'agit effectivement d'interroger ce qui, je crois, est une des conditions de la création, disons, sous toutes ses formes, c'est-à-dire cette espèce de, là encore, de porosité, de très grande ouverture au monde, aux autres. Bon, ce sont des filles sans frontières, toutes borderline, mais plus encore no border.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'acte d'écrire qui, pour vous, commence par la possibilité de laisser rentrer ?
Oui, de laisser rentrer ou d'écouter, prêter l'oreille à ce que Michaud appelle la foule intérieure, enfin toutes les voix qui grondent, qui bruissent en nous, en chacun de nous, parce que là je crois pas du tout à une sorte de privilège de l'artiste, enfin toute forme de discours qui revendiquerait un statut d'exception mais assez insupportable, mais je crois que oui, qu'on écrit à partir du moment où on écoute ces voix-là et où on essaye de les faire sonner à travers la sienne propre, parce que je crois qu'il y a là deux moments qui sont un peu difficiles à démêler, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de les entendre, de les accueillir pleinement, et puis de les ressaisir après dans ce qu'on appelle le style, c'est-à-dire dans sa voix propre, qui est aussi une respiration singulière, une pulsation, pour le coup complètement individuelle. Je crois qu'il y a ces deux moments, indissociablement.
Et pour autant, tout à l'heure, vous parliez d'effraction, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la surprise lorsque vous voyez débouler ces quatre femmes plus une dans votre univers de romancière, d'écrivain ?
Alors en fait, elles étaient en partie déjà là. J'avais ce motif des petites folles. J'avais commencé à l'interroger à travers un livre consacré à Sylvia Plath qui s'appelait Lazare, mon amour. Il résonne aussi dans un livre que j'ai publié peu après qui s'appelait Perséphone 2014. Et vraiment, la toute première source de ce livre, de la folie Elisa, il y avait le désir de continuer à interroger ce motif sous une forme que j'ignorais encore, dont je ne savais pas si elle serait celle d'une fiction, d'un essai. J'avais des désirs à la fois assez flous et tenaces, enfin comme le sont les désirs qui président au livre. Je pensais à des figures parfois tout à fait réelles, Louise Bourgeois, Amy Winehouse, Anita Berber, Valeska Gert, enfin, tout ça était assez confus.
Avec le désir d'écrire sur ces femmes.
Voilà,
avec
j'avais envie de parler
en
de.
En compagnie.
Ouais, c'est ça. J'avais envie de parler de ces filles très peu barbelées. J'avais envie de parler de cette espèce de. Comment dire. On est en fait dans un registre là qui n'a rien à voir avec celui de la psychologie. Ce qui m'intéresse, c'est cette inversion d'une forme de fragilité, de porosité, parfois même d'impuissance, en puissance créatrice, en puissance vitale, en puissance aussi bien amoureuse, érotique. Donc j'avais envie de parler de cette inversion-là, ce renversement deleuzien dont Evelyne Grossman parle très bien dans son beau livre « Éloge de l'hypersensible ». Je suis partie de ça. Et puis il y a eu une autre forme d'effraction, pour appeler ça comme ça, une injonction peut-être aussi bien, qui est que le monde a basculé dans un état catastrophique et que je me suis trouvée moi dans l'état où je l'ai saisie elle, c'est-à-dire dans une espèce d'état là précisément d'impuissance et de sidération, avec le sentiment d'avoir perdu mes armes et mes croyances, le sentiment que tous les mythes, toutes les légendes auxquelles j'arrime depuis toujours, mon rapport à l'écriture, ma pratique de la littérature, étaient devenus inopérants. Je crois qu'on a besoin de s'inventer des mythes. Quand on écrit, l'une des légendes qui m'accompagne depuis toujours, c'est celle qu'on lit dans la Kabbale de la lettre absente. L'idée que tout le mal, tout le négatif du monde dans lequel on vit tienne à l'absence d'une lettre. Je me suis beaucoup dit, c'est évidemment pour un écrivain, un mythe magnifique, que de livre en livre, je traquais la lettre absente. Bon. Ça, même ça, tout à coup, je n'y croyais plus.
C'est un tout à coup que vous datez pas là, mais une bascule que, en tout cas dans le livre, une bascule rattachée à un, sinon plusieurs attentats, en fait. Cette effraction du réel, c'est cette violence-là.
Alors le livre, entre autres, il s'inscrit dans cette séquence-là, janvier 2015, janvier 2016, et c'est écrit aussi entre deux matins de janvier 2017 et 2018. Donc les attentats, bien sûr, mais aussi la montée de l'extrême droite, mais aussi les morts toujours plus nombreux en mer, ce qu'on appelle la crise des migrants. Voilà, tout ça. J'ai eu besoin de... Je pense du même coup, enfin, c'est vrai que ça a déplacé le motif des petites folles, je pense que j'ai eu besoin du même coup peut-être de revenir à la source de mon travail, même si je ne parle pas ici directement de l'écriture, j'avais pas envie de thématiser ça directement, je passe par d'autres pratiques artistiques qui me sont plus ou moins proches, la danse, le théâtre, la musique me sont assez proches, la sculpture m'est complètement étrangère.
Mais ce sont toutes des femmes qui ont cette pratique-là.
Voilà. J'ai eu besoin d'en passer par là et d'essayer d'agencer en fait une tension. Je crois que ce livre s'est écrit dans une tension extrême entre les puissances mortifères qui sont un peu plus vivaces précisément depuis quelque temps et une espèce de sursaut d'énergie vitale et créatrice.
C'est un livre qui a deux parties absolument inégales, le dedans et le dehors. C'est pour ça que dans mon introduction, j'essayais vraiment de montrer qu'il existe en deux temps, ce moment du dedans où quelque chose se dépose et l'espèce de tension qu'il y a vers le dehors et qui est ou bien un horizon de liberté ou de libération ou bien quelque chose qui fait très peur. Ce dedans et le dehors pose aussi la question de l'abri. On sent que c'est un livre qui s'est écrit avec l'idée qu'il n'y a plus de refuge. Il n'y a pas d'abri. On peut pas être à l'abri de l'histoire, à l'abri de la violence, à l'abri de la guerre, à l'abri tout court, même physiquement. Est-ce que vous diriez que cette tension dont vous parliez à l'instant, Gwenaëlle Aubry, elle avait un peu ce nom-là ?
Oui, absolument. Le livre interroge ça de façon centrale. Où dans le monde peut-on encore habiter ? Et comment construire l'hacienda, la question de Tchéglov. Maintenant, le livre interroge aussi l'équivalence, la troublante équivalence du mot asile. La folie Elisa, Elisa c'est l'anagramme et même le palindrome d'asile. Le double sens du mot asile, donc lieu de refuge ou d'enfermement, lieu d'accueil ou de clôture. Ce livre se construit par chambres qui sont à la fois des chambres claires où Amy, Irini, Ariane et Sarah recomposent les figures de leur vie. Il y a aussi une caméra obscura qui est composée d'extraits de la presse européenne de cette année-là. Ces chambres claires sont traversées en même temps de réminiscences de chambres amoureuses. Et puis vient un moment, en effet, où toutes les quatre vont quitter la chambre, vont aller vers le grand dehors. Et ça, c'est une question qui, pour moi, est aussi centrale, puisqu'il s'agissait effectivement aussi de poser la question de Hölderlin, que peut l'art en temps de détresse? Est-ce que ça suffit encore? La question que pose ce livre, c'est aussi savoir s'il ne faut pas à un moment quitter la chambre verrouillée des amants, mais aussi bien la chambre claire de l'écriture. Moi, j'ai quitté la chambre en même temps qu'elle. Quitter la chambre claire de l'écriture, quitter la chambre verrouillée des amants, c'est-à-dire aussi construire, en effet, un asile, une hacienda, un refuge suffisamment vaste pour accueillir tout le monde, fous et folles, migrants et damnés. Donc il fallait aussi faire tomber les parois de ces chambres-là et finalement les parois du livre.
Bon, cette femme maison, ici, représente une femme inconsciente d'elle-même, puisqu'elle est toute nue, elle ne le sait pas. Elle est toute nue et elle ne sait pas qu'elle est nue. Bon, c'est possible, ça. Elle est partie dans un pays où elle a besoin de reconstituer et de collectionner et de serrer de près d'elle une maison vide. Alors, cette petite main qui est comme ça veut dire « Venez à mon secours, il y a quelque chose qui me fait mal, je souffre dans cette... » Je souffre dans cette situation. Alors, cette main comme ça qui dit, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, venez me chercher, parce que j'ai le mal du pays. Ça, c'est évidemment une maison tragique. C'est une maison tragique, pourquoi? Parce que c'est pas éclairé, on sait pas ce qui se passe, la porte est très noire. Et puis alors, cette femme, regardez ses jambes. Cette femme est inconsciente d'elle-même. C'est évidemment quelqu'un de très érotique qui ne sait pas qu'il est érotique. Oh, ça va mal. Et alors qui dit « Venez, venez me chercher et venez me rescaper de l'éroticisme. » Alors ça, au lieu d'être ambitieux, c'est quelqu'un qui s'est résigné. C'est une femme. All these are, I'm a woman, so I talk about women. I don't talk about a subject I don't know. Et alors, il y a une maison là, il y a une belle maison, toutes ces maisons sont belles, il y a une belle maison. Et elle supporte sa maison, elle ne s'est pas détachée de sa maison, et pourtant elle est résignée. Ici, toutes ces petites femmes sont comme ça, hein. Pas de blague, ce sont des femmes qui combattent. Mais là, il y a une espèce de breakdown of something, et la femme est résignée.
C'est un extrait d'un film réalisé par Bernard Marcadet et Jerry Gorovoy en 1993 avec et sur Louise Bourgeois. Assez drôle, tellement... Finalement, les émissions de radio qu'on fait chaque soir, c'est un peu comme les livres que vous écrivez, Gwenaëlle Aubry, on fait rentrer comme ça des gens. Et donc, c'est vraiment super d'accueillir Louise Bourgeois ce soir. Bonsoir, Louise. On sentait que vous lui tendiez l'oreille, que vous acquiesciez, que vous riez, que parfois vous faisiez non, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du dialogue avec ce livre et cette idée des femmes maison, parce que ce sont les images qu'elles commentent.
Oui, mais tellement drôle, enfin, cette espèce de mauvaise humeur. On est tellement loin, là, justement, elle le dit, hein, de la résignation, du dolorisme. Et puis ce passage à l'anglais. Le livre La Folie Elisa est très traversé aussi par l'anglais, par des langues babel. Oui, elle est là explicitement, parce que Irini, à un moment, la sculptrice...
Qui est l'une des femmes.
Voilà, c'est une sculptrice qui, à un moment, au moment où je la saisis dans le livre, est hantée par les corps qui s'échouent sur les plages grecques et ne sculpte plus que le venta black, une matière ultra noire, un noir quasi absolu qui absorbe 99% de la lumière incidente. Irini donc ne sculpte plus que le venta black et les barbelés. Et puis vient un moment où, dans une espèce de, ouais, là encore, de sursaut, de libération. Elle se met à penser aux femmes maison de Louise Bourgeois, à Gordon Matta-Clark aussi, que j'ai découvert d'ailleurs via Louise Bourgeois. C'est elle qui en parle dans ses entretiens avec Xavier Boissiel. Elle parle de ça, c'est tellement magnifique, Matta-Clark. Enfin, la façon dont il agence, là, lui aussi, en spirale, en vortex, le
il dedans. Il troue, hein, véritablement des maisons.
Il troue des maisons, il les fend en deux comme des fruits mûrs, il troue des processus de casse. Bon. Bon, tout ça, c'est une façon pour moi de, là encore, d'interroger ce qu'on peut faire avec la matière quand même ultra noire qui est celle du contemporain, de l'hyper contemporain. Ça, c'était pour moi un enjeu essentiel. Comment on se saisit de cette matière-là? Comment on s'en saisit d'une façon qui soit à la fois juste, pérenne, parce que ça peut se périmer vite, le rapport à l'hyper contemporain. Comment on s'en saisit sans la redoubler, comme le fait Irini, sans non plus la réduire. Voilà. Comment est-ce que la littérature peut se saisir de ça sans se lamenter? J'ai pas de goût pour l'élégie, sans non plus consoler. Il y a quelque chose d'indécent dans la consolation. Bon. Donc ça, c'était un enjeu important, auquel répond en partie la caméra obscura. C'est-à-dire que finalement la matière noire, je l'ai agencée telle quelle dans cette chambre noire à travers des extraits, des vrais extraits de presse de cette année-là, de la presse allemande, grecque, française et anglaise. J'ai cherché en fait à en inscrire la trace, parce qu'une trace ça s'efface. L'inscrire pour la réactiver, en fait, pour raviver l'espèce d'état de choc, l'espèce d'état de sidération qui était le mien, mais qui était un état de sidération collectif, dans lequel on a pu être plongé tous en voyant, et c'est loin d'être fini, les suffrages croissants de l'extrême droite, ces chiffres toujours croissants aussi de morts en mer. Bon, raviver la trace pour que précisément elle ne s'efface pas, pour l'inscrire aussi, pour inscrire aussi l'événement comme événement, c'est-à-dire qu'un événement c'est contingent. Ça aurait très bien pu ne pas se passer comme ça. Ça pourrait encore être, il pourrait encore en être autrement. Il s'agit aussi de rappeler que cet état de bascule du monde n'a rien de nécessaire. Rappeler qu'un autre état du monde est possible, comme le dit Heiner Müller. Enfin, ça c'est quelque chose que la littérature doit pouvoir faire tout de même. Rappeler qu'un autre état du monde est possible. Heiner Müller ajoute, et cette nostalgie révolutionnaire.
D'ailleurs, puisque vous utilisez ce mot-là de nostalgie, on entend dans la voix de Louise Bourgeois quelque chose qui est, elle souffre, mais en fait, elle souffre du, les femmes maison dont elle parle, elle souffre du mal du pays. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi. Elles sont toutes en tension, pas en souffrance, mais toutes en tension, les femmes que vous réunissez, Gwenaëlle Aubry, vers quelque chose qui est chez soi et qui peut-être n'existera plus. Et c'est pas forcément grave.
We can't go home again. Ça, c'est Louise Bourgeois qui dit cette phrase-là, qui traverse le livre. C'est à elle que je l'emprunte. Non, c'est pas forcément grave, effectivement.
C'est à apprendre, mais c'est pas forcément grave.
Absolument, absolument. Parce qu'elle cherche ça aussi. Elle cherche ça. Je l'ai dit, ce sont des grandes vivantes. Hein. Ce sont pas des victimes. Et à travers alors elles vont vers des points de chute, des points de fuite, des points de refus, des points de ravage, parfois. Mais parce qu'elle cherche là aussi des nouvelles matières à sculpter, à danser, à jouer ou à chanter. Des matières peut-être noires, peut-être réfractaires, mais en tout cas très certainement brûlantes. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand les murs s'effondrent à l'intérieur de nous alors que partout ailleurs ils se dressent. Bon, il se trouve qu'à l'origine de ce livre, il y a aussi... toujours à cette même période, perdu une maison que j'aimais, qui s'appelait vraiment La Folie Elisa. Je n'ai pas eu envie de confier ça, de déposer ça dans un livre, encore moins alors que le monde compte près de 68 millions de réfugiés. En revanche, j'ai voulu sauver quelque chose de l'architecture de cette maison à travers la construction du livre. Et puis cette maison s'appelait La Folie Elisa. C'est-à-dire que cette maison, en fait, le nom de cette maison contenait le projet du livre, m'a permis de sédimenter, de feuilleter tous ces motifs un peu disparates dont je vous parlais. Folie, vous le disiez, en son sens architectural, comme dans La Folie Allemagne de Conrad, donc d'un mot latin, folia, qui signifie feuille, tout
chaque maison est un, tout livre est une maison des feuilles, Asile, Elisa plutôt, le palindrome d'Asile. Et j'ai utilisé aussi le nom de cette maison comme une contrainte formelle. En fait, voilà, c'était à la fois un lieu où loger ces petites folles, et c'était un lieu qui pouvait donner naissance à une forme. C'est-à-dire que chacune des lettres, par exemple, de ce prénom Elisa, est devenue l'initiale de l'un des prénoms des personnages. C'est même ça qui a déterminé la récurrence des personnages d'Ariane et Sarah, parce qu'il y a deux personnages récurrents dans ce livre. Ariane qui est échappée de mon premier roman, Le Diable Détacheur, Sarah qui est échappée de Partage. Et c'est vrai que ce livre interroge aussi, intègre la question de la réception de Partage. En fait, voilà, c'est cette contrainte formelle ouvrait l'espace d'un jeu. La contrainte, en fait, m'a permis de recommencer à jouer, parce que c'est aussi vraiment l'une des questions qui se posait à moi de façon très très urgente et qui se pose à elles toutes. Comment continuer à jouer ou comment recommencer à jouer? Et quel jeu? Toutes cessent de jouer, en fait. Le livre les saisit au moment où elles cessent de jouer. Amy, la rockstar, comprend après le Bataclan qu'elle ne remontera plus sur scène. Irini, je le disais, ne sculpte plus que le noir et les barbelés. Sarah, la danseuse, tombe. Et Ariane, l'actrice, un soir de dernière sur la grande scène de l'Odéon, alors qu'elle joue enfin le rôle de sa vie après des années de galère, elle jouissait dans le partage de midi. Ariane s'adresse au public, fait tomber en fait ce qu'au théâtre on appelle le quatrième mur. Bon, toutes quittent la scène, toutes cessent de jouer, et la question c'est voilà, comment on recommence à jouer et quel jeu? Par les temps qui courent, Marie Richaud.
Sur cette terre. Et ça commence avec la création et ça continue jusqu'à la fin. C'est une forme d'innovation, ce que nous vivons. Donc, j'emploie les catégories différentes, les gens différents. Mais c'est toujours plus ou moins avec la même idée, avec le même esprit. Quand le chien en moi, c'est toujours le même parfum, la même odeur qu'il suit. Cette trace narrative de ce que se passe, ce qui s'arrive aux hommes, aux femmes, bien sûr. Alors, est-ce que je me cache? Oui, sûrement. Mais c'était pas, comme l'enfant dit, je ne fais pas ça exprès. Et c'est pas un effort. Et il y a une autre chose à ajouter. Je crois que les vrais conteurs, les vrais narrateurs, souvent, ont un sens d'identité pour eux-mêmes assez faible, ou plutôt instinctif, comme le chien. Mais pas cartésien, c'est très difficile de voir soi-même. Et pourquoi? Parce qu'avec cette, si tu veux, c'était pas exactement un manque d'identité, mais une identité qui est peut-être très forte, mais qui n'était jamais formulée. Bien sûr, c'est possible de se prêter aux identités des autres beaucoup plus facilement.
On est en 1989, quelle chance. John Berger fait des entretiens à voix nue sur France Culture. Il y a beaucoup de choses dans cet extrait d'archives, Gwenaëlle Aubry, qui résonne avec votre entreprise et ce livre La Folie Elisa. Peut-être l'idée selon laquelle ce motif de maison, en fait, est répété à plein d'échelles différentes, et la question des murs est déplacée à plein d'échelles différentes, et parfois arrive à l'échelle très intime de ce que c'est qu'être soi, de ce que c'est que d'avoir une identité, et de ce que c'est que d'être en relation avec quelqu'un, comme si l'identité était une maison à bâtir, construire, déconstruire. Bon. Alors, qu'est-ce que vous entendez dans ce que dit Berger de l'identité floue, l'identité instinctive pour celui ou celle qui écrit?
Ça, je l'entends comme une croyance qui, pour le coup, demeure pérenne. Enfin, c'est même pas une croyance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, en fait. On pourrait le dire aussi à travers les mots de Kafka. Kafka dit qu'écrire ne loge pas en soi. Et je crois, oui, vraiment, qu'on écrit, mais plus largement, hein, qu'on sculpte, danse, chante ou joue, à partir d'une espèce de faille identitaire, mais qu'il faut lire là, enfin, entendre là encore comme, dans le sens de la résistance ou de, plutôt que du manque, c'est-à-dire, c'est une forme aussi de résistance au régime qui est d'ailleurs de plus en plus sévère, de plus en plus policier, dirait rancière, de l'assignation. L'époque a peu de goût pour les délogés. Elle ferme les frontières et les identités. Et ces quatre-là, les quatre fugueuses-là dont je parle, ont ça aussi en commun, cette résistance au régime du « je suis ». Après, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'il dit là, c'est qu'il parle à la fois de flou et d'instinct, effectivement. C'est qu'il... ça, c'est beau parce que ça...
Il dit le chien que je suis, flaire des traces, quoi.
Et parler d'identité instinctive, peut-être qu'effectivement, quelque chose qui est... que l'écriture mette pleinement l'instinct en jeu, ça, oui, évidemment. Évidemment, on traque des traces, c'est d'ailleurs aussi pourquoi on a... Finalement, c'est tellement difficile de reconstruire l'échafaudage d'un livre après l'avoir écrit, parce qu'on agence des masses, des vitesses et des rythmes à l'instinct, et qu'en fait, le chien qu'on est va beaucoup plus vite que nous. On court derrière lui, ça, c'est toujours compliqué de le rejoindre et de l'élucider, l'instinct. Sans compter que, et ça aussi, ça m'intéresse dans ce qu'on vient d'entendre là, sans compter qu'on se cache. Pérec le dit aussi, hein, il dit qu'on se cache et qu'on est comme l'enfant qui se cache et qui ne sait pas s'il souhaite rester caché ou s'il veut qu'on vienne le chercher.
D'ailleurs, les deux font référence à l'enfance, John Berger, pour dire « je fais pas exprès », mais on entend ce qu'on entendait aussi dans la voix de Louise Bourgeois, c'est-à-dire une forme de jeu, d'amusement, d'humour. Et vous disiez tout à l'heure, la question qui était impérieuse au moment où j'ai écrit, c'était de savoir comment c'est possible de recommencer de jouer, quoi.
Exactement.
Et on entend là des êtres qui, peut-être qu'ils ne sont pas parvenus leur vie entière, mais qui manifestement en ont fait le cœur de leur art, de leur existence créatrice, quoi. Gwenaëlle Aubry, on sent aussi que ce sont des femmes qui font de leur relation
au monde certes, mais aussi à l'autre, au sens vraiment de l'autre individu, quelque chose de l'ordre de la maison. Et chacune, elles se disent, est-ce que oui ou non, je laisse rentrer l'autre ?
Oui.
Mais je voudrais qu'on en parle peut-être à cette échelle de l'individu, parce que vous dépeignez ces femmes en relation avec notamment des hommes. Et la question, c'est oui ou non, est-ce que je veux faire entrer l'autre
et
dans ma maison ?
Jusqu'où je le laisse entrer, oui. Oui, oui. Est-ce que je vous donne toutes les clés de ma maison ou pas ? Oui, oui, le livre est tissé de rencontres amoureuses, érotiques, c'est-à-dire de tous ces moments où les murs tombent, là encore. Mais ça, c'est une... effectivement, vous avez complètement raison. Jusqu'à quel point on les fait tomber
Et d'ailleurs, pas forcément les endroits, parce que parfois le livre décrit des choses même très concrètes, quoi. Par exemple, le désir de pénétration, c'est ouvrir des portes. Jusqu'où est-ce que ça, c'est, est-ce que c'est plus laisser rentrer quelqu'un que simplement dormir à côté de quelqu'un et écouter de la musique? Ça pose ces échelles-là.
Oui, absolument. Oui, oui, la question de... C'est ça, des échelles, des... Comment dire, des frontières. Où est-ce qu'on les place, comment on les déplace, jusqu'où, etc. Elles ont plutôt tendance, ces quatre-là, à les réduire beaucoup, beaucoup, les frontières. Parce que, sans doute, je pense à Sarah, là. Je pense à Sarah qui parle de fouille intégrale. Bon. Qui va vraiment, Sarah, elle va vraiment vers son point de ravage, mais parce que elle cherche une danse nouvelle. Sarah, elle est revenue.
Elle parle de perforation, je crois même, ou je sais pas, peut-être pas ce mot-là, mais de fouille intégrale en tout cas.
De fouille intégrale, ouais. Sarah, elle tombe, voilà, elle tombe amoureuse, mais elle tombe surtout. Et c'est ça que finalement, c'est ça qui l'intéresse, parce qu'elle cherche là, une fois de plus. La possibilité d'une danse de. D'une danse de l'extase et du cri, comme disait Anita Berber. Elle m'est revenue, Sarah, façon très, très surprenante, le jour de l'attentat de l'hypercacher. J'avais laissé Sarah à Jérusalem, devant la porte des Lions, au moment où surgissait devant elle, en double, en miroir, une jeune Palestinienne qui avait exactement son âge, lui ressemblait trait pour trait.
Dans le vif partage.
Dans partage, voilà. Et la fin de partage restait ouverte. Bon. Et puis Sarah m'est revenue ce jour-là. Voilà. Et je me suis demandé ce qui se passerait 14 ans après, parce que partage, ça se passait en 2002 pendant la seconde intifada. Si Sarah, victime d'un attentat kamikaze et qui a pardonné, qui ne cesse de réparer, Sarah, elle s'est vraiment écrite sous le signe de la réparation, de la hantise et de la réparation. Ce qui se passerait donc si Sarah était là, voilà. Et puis elle s'est, voilà, j'ai compris qu'elle était devenue danseuse, qu'elle était partie vivre à Berlin pour affronter ses fantômes. Elle est juive polonaise. Et ça m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe quand tout ce qu'elle avait fui lui revient? Elle lui revient en plus à travers la langue allemande et à travers tout ce que cette langue. Tout ce que cette langue charrie.
Est-ce que penser la question des frontières et des maisons fermées ou pas à l'échelle de l'intime, de la relation la plus intime, permet d'être, faire preuve de plus d'acuité pour les penser à l'échelle politique?
Ça, c'est vraiment une autre question du livre. Comment on agence ça? C'est-à-dire, plus précisément, comment transformer cette puissance amoureuses, érotiques, insulaires, qui les traversent toutes, parce qu'en fait elles sont toutes traversées par une grande puissance, mais qui ne leur appartient pas, c'est une puissance anonyme. Comment précisément on la transforme, cette puissance-là, en une puissance collective? Comment on peut métamorphoser cette puissance? Voilà.
Est-ce que vous en faites des constructrices à la fin?
Oui, absolument.
C'est elles qui bâtissent à la fin.
Elles bâtissent, elles recommencent à jouer, chacune à sa façon. Mais... Et puis il y a cette personne. Voilà, c'est vrai que cette question-là, elle s'agence aussi pour moi à travers des motifs,
plus anecdotiques, mais qui accompagnaient la question du tatouage. Bon, ça, c'est une façon d'interroger aussi ce rapport-là, intérieur-extérieur. Le graphe, leur chambre verrouillée communique effectivement par à travers des hommes aimés et puis à travers le graphe bombé par l'un d'entre eux, Hans, de ville en ville, SMA. Les graffeurs disent qu'ils, les graffeurs qu'en anglais on appelle writers, Louise Bourgeois le saurait, les graffeurs disent qu'ils punissent les murs. Voilà. Donc oui, la question c'est ça aussi, c'est comment on punit les murs.
Toute maison est une maison des morts, mais aussi le lieu où ils cohabitent en paix avec les vivants. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est ce que je leur ai dit ce soir de juin à Athènes, dans une espèce de panique. J'ai crié, mais c'est la maison de ma mère. Ne savez-vous donc pas qu'elle était là-bas chez elle? Tu es folle, m'a dit mon père, tandis que les jumeaux baissaient la tête et que ma belle-mère se raidissait, ses yeux de jade traversés d'un éclair dur. Tu es folle. Combien de fois me l'ont-ils dit depuis? Et j'entendais en écho « folle, toi aussi, fille de la folle, folle alliée, folle du logis, folle délogée. » Il y a dans la maison de Patmos, tout au fond du jardin, du côté de la mer, dissimulé entre le muret et le tronc du figuier, un tumulus de pierre. Ma première sculpture. J'avais 8 ans. C'était juste après la mort de ma mère. J'ai entassé des galets ramassés sur la plage de Lambi. Rien de plus beau que cette matière, polie, lustrée, plus veinée que le marbre, presque vivante aussi, d'une vie aquatique que l'air dessèche et ternit.
C'est sur cette même plage que, dit-on, j'ai failli me noyer sous les yeux de ma mère. On dit ça, qu'elle était assise sous le tamari avec sa fille de 2 ans et qu'elle a laissé l'enfant courir vers la mer, s'y jeter en hurlant de peur et de joie, que l'enfant serait morte si un touriste français n'avait plongé pour la sauver. Quelques mois après, c'était l'asile. On dit ça, et tant d'autres choses encore que j'entendais chuchoter sur les plages de Vaïa et de Livaldi, mêlées au bêlement des chèvres et au froissement des bambous. On baissait la voix, mais je savais qu'on parlait de ma mère, la fille de la Turque, vous savez, celle qui a acheté la belle maison de Campos, à côté de la chapelle, la petite folle aux cheveux blonds, aux yeux noirs, qui déjà enfant chuchotait les matrones, entraînait les autres dans des jeux dangereux, escaladait les falaises, nageait à perte de vue, allait nu-pieds dans les coins à serpents. Une enfant étrange, disaient les matrones, trop blonde, trop blanche pour ses yeux noirs, et que sa mère, la Turque, habillait toujours de rouge. Vous vous souvenez? On voyait depuis la plage cette silhouette écarlate qui bondissait, feu follet sur les falaises, et s'est vêtue de rouge encore, qu'adolescente, elle allait danser. Danser, elle ne pensait qu'à ça. Elle était de toutes les fêtes. On pouvait la suivre à la trace, disaient les fils des matrones, du nord au sud de l'île, de George Place à Psili Amos, et souvent aussi, disaient les maris des matrones, on l'a vue au petit matin, en allant relever des filets ou vérifier un mouillage, endormie sur le sable dans les bras d'un homme, parfaitement nue, tête reposant, cheveux épars, sur sa robe rouge froissée. Avec tout ça, on ne s'attendait pas à ce qu'elle trouve un mari, à ce qu'elle revienne, un été, avec ce grand médecin d'Athènes, le beau Vassilis, fou d'elle, ça se voyait. Il la regardait comme un ange tombé du ciel, s'il avait su. On dit que même après la naissance de la petite, elle s'échappait en pleine nuit pour aller danser et retrouver d'autres hommes. On dit. Gwenaëlle Aubry, c'est un extrait de La Folie Elisa. Et c'est un passage où la folie existe d'une manière autre qu'architecturale. Et c'est pas le seul passage. C'est aussi autre chose qui traverse ce livre. Qu'est-ce que c'est que la folie que l'on accole si souvent aux femmes et qui peut-être est autre chose, ou peut-être est cela aussi? Comment vous l'entendez-vous, ce mot, lorsqu'il ne sonne plus comme une vraie maison?
Là, c'est le personnage de Sophia, oui, la mère d'Irini. Bon, ça, cette question-là, elle est présente dans d'autres livres, dans Personne notamment. C'est toujours très compliqué de l'aborder sans romantisme et sans non plus. Sans indécence et sans... Voilà. J'ai pas tellement de goût là non plus, ni pour le pathologique, ni pour la confession. Là, c'est vrai qu'il s'agissait de... Ce motif-là, il a été appelé aussi par la... Je le disais peut-être tout à l'heure, par l'équivocité du mot asile. Voilà. Il est question ici de l'île de Patmos. À côté de Patmos, il y a cette autre île qui s'appelle Léros. Qui longtemps a hébergé, peut-on dire, un asile, mais qui était en fait un hôpital psychiatrique où les conditions de vie étaient épouvantables, et sur lequel Deleuze et Guattari ont enquêté et écrit. Et cette île de Léros est, on le sait, maintenant devenue un camp de réfugiés. Bon, c'est un lieu, cette île-là, qui matérialise en fait le double sens du mot asile. Ce qui m'intéresse là, c'est donc, disons, pour aller très vite, une forme de solidarité des exclus, de tous ceux qu'on rejette au dehors et ou qu'on enferme au dedans, y compris au dedans de soi d'ailleurs, ce qu'on appelle les migrants ou bien encore les folles, petites ou pas, que
que convoque et qu'héberge à son tour la folie Elisa.
Mais ce n'est pas inintéressant que ce soit des femmes, justement, ces folles-là, parce que si l'on se déplace un tout petit peu, peut-être de l'assignation psychiatrique de ce mot folie, et qu'on va voir à quel moment les femmes sont dites folles, est-ce que c'est le matin quand on les trouve près d'un homme après avoir passé la nuit sur la plage? Est-ce que c'est lorsqu'elles vont danser? Est-ce que c'est lorsque, petite, elles parlent trop fort ou qu'elles rient trop fort? Je crois que c'est pas anodin que ce soit des femmes, ces folles, que vous accueillez dans votre livre, Gwenaëlle Aubry.
Non, c'est vrai que c'est sans doute pas complètement anodin, parce que là encore, j'étais partie de ça. J'étais partie vraiment de figures et de très réelles, de plus de femmes. Et en même temps, cette espèce de... Ben, on a entendu tout à l'heure John Bergen qui disait ça, cette espèce de flot identitaire qui est aussi une forme de très grande liberté vitale. On le trouverait chez des artistes hommes, oui, que j'aime infiniment, à commencer par Michaud d'ailleurs, ou encore Nijinsky, dont des fragments du journal résonnent dans le texte. Il y a un texte où justement je me suis amusée, j'ai joué là encore, je me suis amusée à monter aussi bien des phrases de Louise Bourgeois qu'on a entendu tout à l'heure que une phrase, je crois, de Nijinsky. Je dis, de ces figues-là, elles ne sont pas une invention, elles sont la vie. Et Nijinsky, dans son journal, parle de lui-même en disant « Je ne suis pas une invention, je suis la vie ». Donc on le retrouverait aussi chez des hommes, et chez des hommes qui précisément refuseraient eux-mêmes d'être assignés à leur identité masculine, comme ces filles-là refusent d'être assignées à une identité féminine.
Donc par là, vous dites que c'est une mauvaise piste pour moi, en tant que lectrice, de considérer qu'elles sont plus dites folles parce qu'elles sont femmes, et qu'elles seraient tout aussi dites, ou ils seraient tout aussi dits fous, ce homme qui se refuserait à toute assignation de l'identité. C'est pas là votre propos?
Je pense qu'on les dirait fous aussi bien, oui.
Ce que ça veut dire, SMA, vas-y, je te laisse deviner. Save me, angel, pas mal. Suck me, angel, comme tu voudras. C'est ce que je préfère au monde, partir dans la nuit, marcher sur les quais ou les rails du métro, chercher un mur vierge, inaccessible et très visible, et ce mur, le punir. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Dégainer. Réussir un flop d'un seul trait. Un parfait top to bottom à toute vitesse, sans masque ni gants, avant de se faire courser par les maîtres chiens. L'un d'entre nous y a laissé sa peau. Une poursuite qui a mal tourné. Cramé par le rail de traction. C'était le plus doué, le plus cinglé. Je suis sûr qu'il a vu venir le truc, qu'il l'a même pas cherché. Vers la fin, il ne taguait plus qu'à l'acide ou à la pierre sur les vitres des wagons. Et ça, les buffers peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne s'efface pas. Ça laisse un fantôme. Parfois, je prends le métro juste pour voir son nom apparaître dans le noir des tunnels. C'est ça qu'il faut faire. Rien d'autre que ça. Surgir et punir. Laisser une trace et disparaître. Un jour viendra où l'on punira tous les murs, où tous se couvriront de sigles énigmatiques et rieurs. On n'aura rien qu'à les voir, envie de faire l'amour nuit et jour. Les villes se changeront en immenses terrains de jeu pour les gamins aux pupilles rêveuses et à la peau sucrée. Sur les vitres des métros s'inscriront des litanies de saints et de héros. Un jour viendra où l'on n'aura plus besoin de substances pour se sentir vivant, lové au cœur du monde, les corps sécréteront d'eux-mêmes des chimies fantastiques, s'électriseront de voltages insensés, rapides et glorieux, les corps clameront « Save me, angel !» Et ce cri suffira à convoquer les anges et bouleverser les hiérarchies.
Gwenaëlle Aubry, c'est un autre extrait de votre roman « La folie, Elisa » que vient de lire Romain de Becdelièvre. Et on revient à ce jeu dont vous parliez tout à l'heure, et d'une sorte de graffiti mystérieux qui relie les femmes entre elles, qui est peut-être une sorte de porte, de passage entre les différentes chambres de ce livre et de cette maison. C'est un motif qui vous est apparu comment? Est-ce que vous l'avez vu dans les villes, vous aussi?
Non, je l'ai inventé, SMA. J'aimerais bien le voir surgir un jour. à Paris ou ailleurs. Je l'ai inventé, mais le grave, c'est là depuis... Je m'aperçois en fait que c'est présent dans plusieurs de mes livres. C'est là depuis, depuis longtemps, en fait. Quand j'étais adolescente, l'un de mes grands amis était l'un des premiers graffeurs parisiens. Ils s'en souviennent encore maintenant, les petits.
C'est quoi son blaze?
C'est Scipion, on faisait du grec et du latin ensemble. Et puis quand on avait fini, on allait au terrain vague de Stalingrad... qui est l'endroit où qui a servi un peu de lieu de transit à l'arrivée en France du street art et du rap.
Et du hip-hop et de la
danse. Et du hip-hop et tout ça, voilà. Et c'était, c'est pas du tout indifférent à ce dont on parle là. Enfin, je pense que c'est peut-être aussi l'un des lieux, ce terrain vague où je suis devenue écrivain. Parce que c'était, enfin, je m'en souviens comme d'un endroit, complètement magique, enfin, c'était une espèce d'îlot en pleine ville. Il fallait escalader des murs, il y avait des roses trémières immenses, des canapés défoncés. Enfin, tout le monde était un peu défoncé d'ailleurs, pas que les canapés. Et c'était une espèce de lieu de marche, c'était une espèce de lieu intercalaire, comme ça, en pleine ville. Et. Voilà, et c'est le goût que j'avais pour cet endroit communiquait avec l'ardeur avec laquelle je lisais à l'époque les surréalistes, avec laquelle j'ai découvert les situationnistes, enfin tout ça évidemment communiquait. Et cette façon de faire surgir des dimanches de la vie, dirait Breton, au sein du réel le plus quotidien, le plus verrouillé, le plus asphyxiant, faire surgir des marges de loisirs, de au sens fort du terme, hein, de d'errance.
Évidemment, c'est quand même très
des haciendas.
Éloquent en vous écoutant de penser que peut-être ce terrain vague a été remplacé à Stalingrad ou dans les alentours par des camps de personnes qu'on appelle les migrants.
Ils sont tout prêts. Ils sont vraiment tout prêts. En fait, c'est maintenant. Je crois que ce sont des entrepôts, des bureaux de la SNCF ou non, de la RATP peut-être, je crois. En tout cas, ça a été construit. Le terrain vague n'existe plus en tant que tel. Et puis, il y a quand même chez les graffeurs aussi, cette espèce de rapport magique à la lettre. Je parlais tout à l'heure de la cabale, ça peut paraître étrange, mais ce rapport aussi à la matérialité de la lettre. Je continue à traduire du grec ancien, à travailler sur des philosophes grecs, et le goût que j'ai pour le grec ancien vient aussi de ce rapport au dessin étrange de la langue. Donc c'est un rapport très matériel à la langue.
Ce qu'en graphe on appelle le lettrage.
Oui, exactement. Et donc le SMA, oui, il fallait. J'ai encore des amis graffeurs. Il y a des lettres qu'ils aiment plus ou moins que les autres. Ils aiment bien le S et le A sont des bonnes lettres parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Le M est une lettre plus difficile, mais quand on intercale entre deux, on peut s'en sortir. Bon, tout ça, oui, vous l'avez dit, c'était une façon de jouer. Et puis ce graffeur Asile dont parle Hans dans l'extrait que vous avez lu, Asile existe vraiment. J'ai agencé ce système, oui, ce système d'écho s'agençait, de même que les patronymes des différentes filles font jouer le mot feuille, de même que le mot feuille appelait Walt Whitman.
C'est infini, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'en préparant l'émission, on s'est dit, ça ne rendait pas forcément la tâche facile, c'est qu'il y a un nombre d'échos, de signes, de tissages très serrés des choses les unes avec les autres, de souterrains qui est très très dense, Gwenaëlle Aubry, comme si écrire c'était pour vous vraiment travailler un tissu d'écho très très serré. Où tout rentre, quoi.
Alors, c'est vrai que ce livre-là est vraiment très très feuilleté. Mais peut-être, je ne sais pas, enfin voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que une fois de plus c'était une affaire d'instinct, mais peut-être aussi parce qu'il s'est écrit dans cette espèce d'urgence extrême dont je vous parlais, qu'il fallait tout, une fois de plus, il fallait tout rejouer, il fallait tout relancer, et il fallait voir
voilà, si ça continuait à ouvrir ou pas des espaces. Et c'est vrai que là, oui, ça ouvre un espace qui est assez proliférant, comme dans la maison des feuilles de Danielewski, cette maison qui est la littérature aussi bien, enfin qui est chacun d'entre nous. Je pense qu'on abrite tous des maisons. On est tous des maisons plus vastes en fait à l'intérieur qu'à l'extérieur. La maison des feuilles de Danielewski, c'est une maison au sein de laquelle des corridors, des escaliers infinis tout à coup se forment, se déplacent. Bon, c'est la littérature aussi bien.
Et alors ça marche ou pas d'avoir tout essayé de rejouer? Est-ce que ça marche? Est-ce que le jeu dont vous parliez, est-ce que l'étincelle vivante, elle demeure?
Alors ça, moi je l'ai écrit ce livre-là, donc oui, pour moi donc, quelque chose c'est évidemment rallumé. Et après il faut, l'idée c'est que les lecteurs puissent jouer eux aussi. C'est de rouvrir cet espace-là, un espace un peu respirable pour les autres aussi. Alors, il se trouve que ce texte-là, on va précisément le jouer avec le guitariste Seb Martel et la comédienne Judith Chemla le 13 novembre à l'Opéra Bastille, au Studio Bastille, dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres.
À Paris.
Est-ce que ça joue pour les autres aussi? C'est ça la question.
Eh bien, on verra ce soir-là ou tous les autres soirs pour celles et ceux qui veulent lire le roman La Folie, Elisa. C'est donc paru aux éditions du Mercure de France. Merci beaucoup.
Merci.
Au son ce soir, c'était Alice Seyed à la réalisation. Lise Combe, Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h, quand vous voulez, sur franceculture.fr. Vous pouvez réécouter cette émission, réécouter celles qui l'ont précédée, et aussi vous abonner au podcast, et aussi même nous écrire, parce qu'il y a un petit endroit pour, je crois, ça s'appelle Rester en contact. Merci beaucoup à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier. Ils m'aident à penser et préparer ces émissions tous les jours. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.
Given lightly.